Bien le bonjour, mardi plein de soleil. J'espère que vous allez bien. J'espère que c'est une belle semaine pour vous de ce mois de mars parce que ça tire déjà à sa fin. On se dirige vers avril, mais on se découvre pas d'un fil. Parce que ce matin, ben c'est ça, c'est un petit peu plus frisquet, mais c'est tellement ensoleillé. Habillez-vous en grosse doudoune puis ouvrez le toit. C'est ce que j'ai fait dans ma voiture ce matin, puis il y avait quelque chose de rafraîchissant, avec quelque chose de plaisant là-dedans. Puis on a besoin de bonnes nouvelles, puis on a besoin de sentir là, les éléments dans le plus simple des bonheurs. Je pense, avec les nouvelles de ce matin... Mon Dieu! Émission spéciale, honnêtement, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé du côté de Baltimore. Le pont qui s'est effondré. Je ne sais pas sur quoi vous vous réveillez le matin. Ah, ça serait une bonne question, ça. 418-971-1021. Vous vous réveillez sur quoi le matin? Donc, la première chose là, que vous faites ou dans les premières choses, OK? On va faire ça, ça va être la question pour se connaître aujourd'hui. Mais moi, je me réveille sur les nouvelles et je vois ça. Hey, la terreur! Je pense que c'est quelque chose qu'on s'imagine... vivre, puis on se dit, ben ça arrivera jamais. Tu sais, un pont là, qui se démantibule comme ça, puis qui tombe dans le fleuve. Ben moi, je dis le fleuve parce que ce serait ici à Québec. Admettons qu'on a peur du pont de l'île d'Orléans ou du pont de Québec. On peut imaginer tomber dans le fleuve, mais on se dit, ben ça arrivera jamais. Est-ce qu'on sait comment s'en sortir si jamais ça arrive? On discutait de ça, Yann et moi, puis on va en discuter sur l'heure du midi parce qu'on a des solutions pour vous si jamais ça arrive ici à Québec. On le fait de façon un peu ludique, mais c'est vrai. On ne sait pas comment réagir dans ce genre de situation-là encore. Là. Est-ce qu'on aurait le temps? Émission spéciale là-dessus aujourd'hui. On va aller parler avec des experts, mais de façon décomplexée. Bienvenue dans l'heure CV. Il est 10h03. Mon nom, Pascal CV. Puis l'heure, parce qu'on est ensemble jusqu'à 11h, justement. On va parler avec un professeur à la retraite en physique aujourd'hui sur cette structure qui s'est effondrée. Je veux comprendre comment ça se peut. On dirait un bloc Lego, finalement, que quand une partie a cassé, le reste a suivi. C'était un château de cartes qui s'effondrait à Baltimore. Des voitures également qui circulaient dessus, qui ont sombré dans l'eau. On cherche 7 personnes minimalement. Encore là, c'est difficile de savoir qui était sur le pont au moment précis. Hein? Ça prend du temps à savoir qui est-ce qui manque à l'appel, qui aurait pu circuler aussi tard aussi sur le dit pont. Mais un autre point là-dedans, c'est pourquoi le bateau a foncé sur le pont. Il semble éteint. D'habitude, ils ont des outils GPS très particuliers, vraiment là. Puis aussi, autour de 10h30, on va aller parler à des gens qui font de l'import-export parce que ça va avoir des conséquences sur ce qu'on a ici à Québec en termes de marchandises, mais aussi à la grandeur du Canada et des États-Unis. Là, c'est un pont, un lien important quand même pour le transport, pour le commerce. Et il faut exploiter nos ressources, il faut exploiter ce commerce-là. Comment est-ce que ça va nous affecter dans notre quotidien? 88-971-1021, comme je vous disais, c'est la manière de nous rejoindre toujours en studio, peu importe les émissions. Sinon, le twitch.tv/BelleVD/FM. On est une très belle communauté. Et ce que j'aime particulièrement, c'est de vous voir jaser entre vous pendant l'émission. C'est certainement un genre de regroupement de collègues, de gens qui ne se voient pas au quotidien, mais qui se parlent au quotidien, puis vous commentez au fur et à mesure. Puis des fois, sur des sujets autres, dans le sens où moi, je parle de quelque chose, ça vous fait penser à quelque chose d'autre, vous allez sur Twitch. Quand même assez hallucinant. Puis je reviens sur cette annonce magique, magnifique qu'on a fait ce matin dans l'émission de Rage Against le matin. Et pour ça, ben, je veux dire, restez à l'écoute parce que si vous l'avez manqué, c'est quand même assez fascinant. C'est quand même un concours exceptionnel. On est la seule radio qui vous fait faire des trips comme ça à Québec, puis on est vraiment fiers. On a fait le tour, les pistolets roses dans vos oreilles. C'est le fameux moment d'aller chercher son café, de le couler et continuer de répondre au 88-971-1021. C'est quoi votre première étape le matin? Le café, les nouvelles, les enfants, le déjeuner, s'entraîner. 88-971-1021. It's
time! L'heure CV avec Pascal CV.
J'adore ça, vous me faites plaisir. Pendant la chanson des Pistolets Roses, il y a un auditeur qui a appelé, qui a dit hey, « Moi, j'ai lu vraiment beaucoup là-dessus ce matin, puis je vois dans les médias américains que ce qu'on dit, c'est que sur le bateau, il y aurait eu une explosion, en fait, du propulseur, puis c'est pour ça qu'il aurait foncé sur le pont à Baltimore. » Puis là, la personne a dit « C'est pour ça qu'on aurait perdu le contrôle, puis ça aurait fessé aussi fort. » C'est super intéressant. Tout le monde en parle en ce moment. Ce que je vois là, dans le point de presse actuel, c'est qu'il n'y aurait pas d'enquête, en fait, sur un impact terroriste. Je suis branchée en ce moment sur les nouvelles en continu. Il y a un point de presse du côté du Maryland pour justement être capable de vous informer rapidement. Mais les shérifs sont là avec leur chapeau, puis c'est très solennel, c'est très important. Puis on dit que pour l'instant, c'est écarté là, que ce soit quelque chose de terroriste, parce que ça aussi, on le voyait passer, mais pas d'experts nécessairement, mais plutôt de gens qui avaient quelques mots à dire là-dessus, là, puis qui avaient des questions à se poser. Et ce matin, superbe annonce qui a été faite. La grande annonce. Moi, je trippe sur ce concours-là. Puis toute l'équipe ici, là, à Boulevard 102.1, vous en fait de façon semi-régulière maintenant, en fait. Une expérience comme ça, c'est un tout compris. Ce sont les meilleurs voyages. Que tu trippes ou pas sur le sport, que tu trippes ou pas sur la musique ou le groupe en question, c'est une découverte de A à Z. Et on vous envoie, OK? On vous envoie du côté de San Francisco voir Blink-182 et un match des Jays contre les Giants. C'est quand même assez exceptionnel. On appelle ça le Rock and Ball de Boulevard 102.1. Ça a été annoncé. Allez voir les réseaux sociaux de Boulevard 102.1, entre autres la page Facebook. Vous devez être à l'écoute de Boulevard 102.1 pour avoir une chance de gagner. Puis je vous donne pas trop d'informations là-dessus. Il faut vraiment écouter toutes les émissions pour être capable de amasser ce qu'il faut pour être finaliste et ensuite peut-être grand gagnant ou grande gagnante. Mais c'est un bonheur de vous envoyer deux soirs à San Francisco. Tu gagnes ton trip pour triper justement à Blink-182 et au baseball. Fou, fou, fou. Honnêtement, je suis fière de mon équipe d'avoir réalisé des concours comme ceux-là. Il y en a une en plus, une gagnante en ce moment qui vit son trip aux États-Unis dans le même type de concours qu'on a fait gagner presque à pareille date l'an dernier. On peut être fiers. On peut être fiers de vous envoyer là, puis c'est parce qu'on vous aime, puis c'est parce qu'on croit à ce genre de trip exceptionnel qu'on peut vous créer des souvenirs, en fait. Et restez à l'écoute de Boulevard 102.1. Dans un instant, on va aller parler à un ancien professeur en physique pour justement essayer de comprendre, poser des questions sur ce qui s'est passé à Baltimore. Puis à l'extérieur, c'est 0 degré, c'est du soleil, c'est magnifique, 4 degrés comme maximum, et c'est ce qui nous accompagne durant leur CV en ce moment. On revient.
Pour votre demande de pardon, Boulevard 102.1.
On recherche toujours les survivants, peut-être survivants, à l'effondrement d'un pont du côté de Baltimore. Des images qui donnent froid dans le dos. Vous êtes nombreux à écrire en ce moment au 88-971-1021 que vous êtes réveillés là-dessus aussi, soit en syntonisant là, Boulevard 102.1, parce que les gars en ont fait une certaine couverture. Mais c'est épouvantable de constater le porte-conteneur qui a heurté le pilier d'un pont de Baltimore qui s'est effondré vers 1h30 du matin. Effondrement d'un pont, c'est pas rien, on s'entend. Des recherches qui se poursuivent. Bon, tout ce qui est import-export est quand même perturbé, on s'entend. Ça a tombé comme un château de cartes. Et c'est ce qui est intriguant. Pour en parler, pour faire le point, essayer de se poser des questions, en fait, je suis très heureuse de recevoir un invité ici, que c'est la première fois qu'on reçoit, en fait. Puis, je lui jasais ce matin et c'était super franc. Il dit, écoute, Pascal, moi, je peux pas être certain de ce que je vais dire, parce que ben on est encore en enquête, on est encore en train de se poser plusieurs questions, mais assurément, il y a des choses qui intriguent là-dedans, et c'est pas la première fois. On s'en va rejoindre Yvon Fortin. Yvon Fortin, qui est-il? Il est anciennement professeur de physique, hein, il est retraité maintenant, et c'est un bon vulgarisateur. Bonjour, M. Fortin.
Bonjour.
Premièrement, quand vous avez vu ça dans l'actualité ce matin, quelle a été votre première réaction en tant qu'ancien professeur de physique?
En fait, avant d'avoir une réaction de prof de physique, c'était une réaction de surprise comme n'importe quelle personne qui verrait un événement comme ça. C'était assez impressionnant, dramatique. Puis la première idée qui m'est venue, c'est, j'espère qu'il n'y avait personne dessus qui ont eu le temps de bloquer le pont avant que ça s'effondre, mais
malheureusement,
ça a été long pour que je comprenne qu'effectivement, ça s'est produit très rapidement. Ça aussi, ça m'a surpris. Là. Puis là, évidemment, bien, toutes les questions sur la nature même d'un pont de ce type de structure-là, on a vu jusqu'à quel point c'est très solide quand ça fonctionne dans les conditions normales, mais que c'est très fragile dès qu'on perturbe des éléments clés de la structure.
Bien, assurément, j'ai l'impression que c'était un château de cartes, finalement, qui s'effondrait en images quand on prend le temps de les regarder. Et ça fascine, parce que nous, on est loin d'avoir étudié en physique, probablement que des auditeurs que oui, à l'écoute, mais quand on voit ça, on se dit, bien, comment ça se fait que ça peut s'effondrer aussi rapidement avec un impact comme un porte-conteneur qui va aller frapper juste une petite partie du pont? Il n'y a pas quelque chose qui va aller stopper peut-être une décrépitude quelconque, un mouvement?
Ben, je pourrais pas dire, mais quand on regarde la structure du pont, en tout cas les quelques images que j'ai pu voir, parce que j'ai pas fouillé le dossier moi non plus, là, mais quand on regarde la structure, on voit que les piliers de support de la zone centrale, c'est des structures métalliques, donc ça peut sembler frêle, mais en réalité, c'est très solide tant qu'on les garde en compression, puis que la structure demeure alignée, c'est-à-dire que tous les éléments de support sont droits. Là, on peut comprendre assez facilement que quand le pont a frappé un des piliers de support, il a plié certaines de ces pattes-là, puis dès que tu la plies, ça flambe. On a le même genre de phénomène avec une tour d'Hydro-Québec qui est très solide tant que les pièces de support sont rectilignes. Dès qu'on en plie une, bien, le poids va faire s'effondrer tout le kit. Vous avez bien, l'image était belle, un château de cartes, où je vous dirais, les ponts qu'on fait dans les concours de sciences au secondaire, faire un pont en spaghetti.
Oui.
Bien, tant que c'est en compression, un spaghetti, comme un tube de papier toilette, ça peut être solide tant qu'on reste dans l'axe du cylindre, mais dès qu'on fait une coche dans la structure du latéral, là, ça n'a plus aucune résistance mécanique en compression, puis ça s'effondre. Donc, on a vu beaucoup d'aspects dans cet effondrement-là. Quand la partie de gauche s'est effondrée, on a vu la partie de droite se soulever, parce que quand même, tout ça, c'est rigide, c'est solide, c'est maintenu. Mais c'est frêle au sens où, tant que les structures sont alignées correctement, la compression comme la tension va jouer son rôle, puis le pont va être très solide. Mais on a vu la partie de droite, aussitôt que la zone de gauche s'est détachée, la partie de droite est partie vers la droite. Donc, on a pu voir l'effet des tensions et des compressions pendant l'effondrement. Là. Ça, c'est une vision de mouvement de physique puis de dynamique. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y avait pas d'enrochement autour du pilier, comme on en voit dans les ponts ici, par exemple, à Montréal ou à Québec. Puis d'ailleurs, quand
l'enrochement
voyant,
pour vous, c'est
qu'à Québec, on a un pont qui s'est effondré deux fois. Là.
Pour vous, l'enrochement, c'est la roche qui se trouve au pied du pilier, par exemple, là, qu'on peut voir
c'est
sur
ça,
le pont.
Ça protégerait le pilier d'un impact de navire. Ben, dans les zones où il y a du trafic important, ce qui semble être le cas, c'est une zone très achalandée. Oui. Probablement que les conditions de circulation sont habituellement tellement régulière qu'on n'a pas cru bon de mettre un enrochement. Mais dans des zones à fort courant, comme on a ici à Québec ou à Montréal, ben on pense qu'un bateau qui perdrait le contrôle pourrait facilement aller percuter le pont. Fait que souvent, on met des enrochements importants pour justement limiter la possibilité d'atteindre la zone de support du pont.
Et ça aurait fait une différence, c'est ça que vous êtes en train de dire ou de présumer, du moins parce qu'on réfléchit ensemble?
Ben, j'imagine que s'il y en avait un plus gros, le pont, ce serait le bateau, ce serait échoué sur l'enrochement, aurait frappé l'enrochement, ce serait pas rendu jusqu'au pilier. Ça, j'ai aucune idée comment c'est fait, j'ai pas d'image. Donc, quand je vous dis ça, là, c'est de la pure spéculation.
Ouais.
Mais on voit vraiment que le bateau s'est rendu jusqu'au pilier, donc ça peut laisser penser que dans des conditions normales, je sais pas ce qui fait que le bateau a sorti de sa route, parce que un bateau qui sort de sa route, pour arrêter un bateau en bonne vitesse, habituellement dans les zones portuaires, il navigue pas rapidement. Mais ça s'arrête pas comme une auto, là. Ça peut prendre des kilomètres, des fois, arrêter un bateau. Fait que je sais pas.
Surtout
si
un porte-conteneur aussi chargé.
Navire,
mais là, je regardais, là, entre autres, il y a un auditeur qui a appelé un peu plus tôt, puis je regardais les articles dont il me parlait. Dans certains médias américains, ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait peut-être eu une explosion du propulseur dans le porte-conteneur, ce qui aurait en fait faire en sorte qu'il dérive justement vers le pont. Mm-hmm. Je regardais le point de presse des autorités aussi où on disait, parce que ça, ben, y a des gens qui le spéculaient, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est une attaque quelconque? Est-ce que, bon, et ça, c'est écarté. On n'est pas en enquête d'un événement terroriste ou autre. Ce serait vraiment une problématique, finalement, un addon catastrophique et tragique. Mais l'image est tellement en continu sur les sites de nouvelles en continu, justement. Moi, ce que je me demande, c'est par rapport à un pont qui s'effondre comme celui-là, est-ce qu'on peut faire peut-être des parallèles avec ce problème qu'on a eu aussi au pont de Québec que vous avez énuméré un peu plus tôt dans l'entrevue?
Bien justement, au pont de Québec, on a toutes les études qui ont montré qu'est-ce qui s'est produit dans l'effondrement. Dans le cas de ce pont-là, j'ai aucune idée. Par contre, on voit très bien que si on attaque une des structures de support du pont, il va s'effondrer, c'est une évidence. Ce qui est étonnant, c'est en fait, toute la dimension, la nature même de l'accident qui s'est produit sur le bateau précédemment, la collision avec le pont, les enquêtes vont le démontrer. Mais en ce qui concerne ce pont-là, quand je le regarde, là, en fait, les images que je vois,
oui,
c'est des ponts qu'on retrouve un peu partout sur la planète, mais c'est très résistant tant qu'on n'altère pas la capacité de résister dans le bon sens de toutes les structures qui s'y trouvent, c'est-à-dire en tension et en compression.
Donc, c'est vraiment...
À l'évidence, un peu, l'image, ça serait la suivante. Tu sais, quand on est droit debout, puis quelqu'un vient nous donner un petit coup dans l'arrière d'une jambe, puis que le genou nous plie, on s'écoule immédiatement. Pourquoi? Tant que c'est droit, puis que c'est supporté en compression, bien, on tient debout. Mm-hmm. Mais si on fait fléchir la jambe légèrement sans qu'on s'y attende, bien, si on a de bons réflexes, on tombe pas, mais si on n'a pas de réflexes, on va se ramasser à terre.
On plie quand même. On se parlait ce matin, M. Fortin, vous et moi, au téléphone, vous faisiez aussi des parallèles avec les tours d'hydro, que c'est un peu le même principe dans le montage et de la physique.
Tout à fait. Il y a des limites à la résistance des matériaux. Habituellement, les ingénieurs vont mettre des facteurs de sécurité importants pour justement tenir compte de la vibration, de la dilatation thermique. Des ponts métalliques comme ça, quand c'est l'été ou l'hiver, il y a une expansion puis il y a une contraction du métal. Donc, on doit tenir compte de ces effets-là dans la réalisation, la conception du pont. Puis, on tient compte aussi des résistances limites des matériaux qu'on utilise. Donc, l'acier, c'est solide, mais ça n'a pas une solidité infinie. Donc, pour les valeurs probablement que les ingénieurs avaient calculées, ce pont-là était probablement impeccable, mais on n'avait peut-être pas prévu qu'un bateau viendrait donner une jambette au pont. C'est ce qui s'est produit.
Oui, mais c'est un peu inquiétant de voir que c'est aussi facile, quoique on s'entend, c'est pas n'importe quoi qu'un porte-conteneur fonce dans le pont. Là, c'est pas prévu du tout. C'est inquiétant de savoir qu'on n'avait pas des structures peut-être de béton au pied des piliers pour prévenir tout ça. Je me demande, bon, quels seront les impacts de l'import-export là-dessus? On aura une experte un peu plus tard à l'émission, mais vous, en tant qu'enseignant physique à la retraite et vulgarisateur, est-ce que vous pensez qu'on a à revoir la façon de faire certaines structures?
Bien, j'imagine que suite à un accident comme celui-là, il y a plein de monde qui vont regarder est-ce que leurs ponts ont cette sensibilité-là à des impacts. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prévoir justement des enrochements plus importants pour empêcher qu'une collision comme ça se produise dans les zones où il y a du trafic maritime proche des supports? C'est sûr qu'il y a plein d'ingénieurs puis plein de conseillers qui vont essayer de voir est-ce qu'on peut nous-mêmes se protéger contre ce type d'accident-là. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir des enquêtes, des études sur la façon d'empêcher ça, de prévenir ça. Mais dans ce cas-là, il est trop tard, là. Mais je ne connais pas les conditions. C'est la baie de Chesapeake, c'est pas une zone à forte marée comme on en a ici. Mais malgré tout, quand la marée monte et descend, il y a un léger courant.
Oui.
Est-ce que ce bateau-là a dérivé suite à des courants faibles malgré tout, mais avec des masses aussi importantes?
On m'expliquait que c'est dur à piloter.
Suffisamment étendu autour des piliers pour empêcher ça, mais quand je vous dis ça, effectivement, je connais pas le dossier, donc je dirais pas à travers mon chapeau, mais j'ai hâte de voir les études qui vont découler.
Oui, parce que ça va sortir.
Il y a des choses qui vont être modifiées dans la réalisation des supports puis de la protection des supports.
Ce que j'allais dire, c'est que, en plus, je parlais au téléphone avec un autre expert qui m'expliquait qu'à Baltimore, ce courant-là, ce plan d'eau-là est aussi complexe à naviguer que le fleuve Saint-Laurent. C'est des chauffeurs, des pilotes de bateaux expérimentés qui prennent le contrôle des bateaux pour faire ce segment-là. Donc, il y a une qualification requise supplémentaire. Il est assurément arrivé quelque chose de mécanique là, pour que ça arrive. Puis en complémentarité dans tout ça, je regardais la construction du pont de Baltimore. A été faite, a été commencée en 1972 et s'est terminée en mars 77. Puis en plus, c'est le plus long, en fait, de Baltimore. Peut-être que c'est ça aussi, là, tout ce qui est technologie qui a changé puis qu'on ne s'est pas adapté en disant qu'il est toujours bien tenu et on est fier de cette structure.
Peut-être. Mais en même temps, quand on regarde le pont de Québec, ça tient toujours. Là.
Oui.
C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui était évitable, peut-être, s'il y avait un enrochement suffisant. Par contre, les conditions de navigation, l'accident qui s'est produit sur le bateau, ce qui a empêché le bateau de manœuvrer correctement. S'il y avait des pilotes à bord, comme dans le fleuve Saint-Laurent, il y a des pilotes qui naviguent les bateaux dans le fleuve justement à cause des conditions difficiles. J'imagine que si c'était le cas là-bas, il y aurait une explication à trouver du côté du comportement du bateau. Mais en ce qui concerne le pont, la seule chose que je verrais, c'est d'avoir un enrochement qui limite la possibilité que le bateau atteigne les piliers. Mais pour la structure même, je vois pas qu'est-ce que ce pont-là a à se reprocher, là. Si tu donnes une jambette de cette nature-là à n'importe quelle structure métallique, c'est possible que tu vas avoir une perturbation de ce genre-là. Malheureusement, là, ça implique des vies.
Yvon Fortin, un gros merci de nous avoir parlé. Vous êtes professeur de physique, retraité et vulgarisateur. Et vous partez en Égypte dans les prochaines heures. Donc, on apprécie énormément que vous ayez pris le temps ce matin dans l'heure CV.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, mais je ne sais pas si ça vous a éclairé, mais ça, c'est des réflexions à froid sur quelque chose, un dossier que je n'ai pas étudié. Donc.
Oui, oui. Si on comprend, je sais qu'en tant qu'expert, vous avez quand même l'ordre à respecter et tout, mais ça nous a effectivement aidé à comprendre un peu. Merci beaucoup, M. Fortin.
Merci, au revoir.
Au plaisir. Les commentaires étaient très, très nombreux pendant l'entrevue, entre autres, vous dites. Nouvelle peur activée. Oui, c'est pas mal ce qu'on s'est dit ce matin. Hein. On pense que ça n'arrive pas ou ça n'arrive que très loin ou encore de déconstruction un peu boboche dans des endroits où peut-être on n'a pas nécessairement les meilleures informations pour construire ce genre de pont-là. Mais quand on voit que ça arrive à Baltimore et que ça tombe comme un château de cartes, c'est un petit peu inquiétant. Encore une fois, là, dans les fils de nouvelles continues, on dit que le FBI affirme qu'il n'y a aucune indication spécifique de terrorisme. Le bateau avait averti d'un problème de propulsion. Donc, ce que l'auditeur nous a confié un peu plus tôt à l'émission semblerait aussi dans les perspectives, en fait. On dit que la reconstruction sera longue. Laissez-nous en douter, oui, effectivement, laissez-nous être d'accord avec ça. Mais ça va avoir des impacts, assurément, c'est un lien qui existe, donc c'est un lien qui était important et qui faisait du transport de marchandises, qui permettait une connexion entre des rives. Et ça, c'est le deuxième enjeu de cet effondrement qu'on va aller explorer dans leur CV dans quelques instants. Restez là. Mordicus, les dieux l'ont choisi. C'est un peu étrange, là, ce titre de chanson-là après une entrevue comme telle. Mais il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Continuez de m'écrire. J'adore voir vos commentaires.
Avec Pascal CV.
On est toujours en émission spéciale sur ce qui s'est passé là, du côté de Baltimore. L'effondrement d'un pont, le plus grand de Baltimore. Opération de sauvetage en cours. On cherche toujours au moins 6 à 7 personnes qui auraient sombré dans les eaux. On a toute une équipe complète, en fait, qui est en enquête avec le FBI. On fait des points de presse. C'est des nouvelles en continu, des images en continu. Un peuple aussi qui est un peu surpris de tout ce qui s'est passé. C'est catastrophique, en fait. On vient de parler à un enseignant à la retraite en physique. Yvon Fortin, vulgarisateur. Ce sera également de retour là, sur le site de blvd.fm pour aller réécouter l'entrevue. Mais il y a un aspect très important à ne pas oublier dans ce genre de tragédie-là, et c'est tout ce qui concerne la commercialisation, le commerce en fait. Ça a un impact sur une chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord, c'est certain. Et pour en parler, on a au bout du fil Madame, je suis très contente de la recevoir, Ginette Blouin, qui est directrice générale VP logistique et opérations chez Dolbec. Bonjour Madame Blouin.
Bonjour Pascal, ça va bien?
Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'entrevue sur cet angle-là qui est un peu oublié, mais qui, je crois, sera dans l'actualité partout dans les prochains jours parce que c'est comme la deuxième étape, en fait, suite à la tragédie. Ouais. Êtes-vous d'accord?
Oui, tout à fait. Ça a un impact réel parce qu'il faut comprendre aussi que la chaîne d'approvisionnement, là, elle est organisée au quart de tour, là. Ce qui s'est passé la nuit passée, l'impact va être important parce que les navires, non seulement les navires qui sont encore dans la baie vont avoir bien sûr de la difficulté à ressortir, pourront pas ressortir tant que les débris du pont n'auront pas été retirés.
Ça parce qu'on prend pas de chance, ça pourrait abîmer là, les navires assurément.
Ah ben ça passera justement pas en fait. Là, quand on voit la position du navire dans la baie, là, je ne pense pas qu'avec tous les débris là, qui se retrouvent au fond, là, qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle la clairance nécessaire là, pour pouvoir passer des navires dans cet endroit-là. Puis de toute façon, le temps que va durer l'enquête et les procédures, là, ça, il y a pas mal de choses qui vont être mises sur pause. Là. Les navires qui sont en route vers Baltimore vont forcément devoir être redirigés vers d'autres ports de la côte est nord-américaine. On parle ici de Norfolk, on va parler possiblement de New York, de Philadelphie.
Ça peut-tu créer des bouchons immenses? Parce que ça me rappelle un peu le canal de Suez il y a quelques années en pandémie, là, où finalement il y a eu des retards gigantesques parce qu'on était pris, il y avait eu un bateau qui était en panne dans le canal de Suez. Là. Ça peut-tu créer le même genre d'impact? Parce que normalement, c'est calculé au quart de tour qui passe quand les navires passent, porte-conteneurs et tout, hein, je crois.
Oui, en fait, c'est calculé. Il y a même aussi tout le processus douanier qui est autour de ça. Là. Quand les navires sont en route là, puis qu'ils approchent, en fait, toutes les déclarations douanières ont été transmises à la douane. Donc, tout est orchestré. Si ça devait être dédouané au port de Baltimore, puis que là, on redirige vers un autre port, il faut refaire les déclarations douanières. Il faut aussi penser que les capacités portuaires sont pas évidentes non plus. Là, les navires sont sont attendus, ils ont les grues au port et tout ça, et la main-d'œuvre pour décharger les navires qui sont attendus. Mais quand on a de l'imprévu comme ça, c'est quoi la structure, l'infrastructure de camionnage, l'infrastructure ferroviaire aussi pour le réacheminement de tous ces conteneurs-là qui vont sortir des navires pour être déposés au port? Comment on va orchestrer ça aussi? Parce que là, les navires doivent être déchargés et rechargés. Ces navires-là qui devaient se décharger à Baltimore et qui ne peuvent pas entrer dans la péninsule du port pourront pas non plus repartir avec ce cargo-là qui est déjà en attente au port de Baltimore pour partir vers sa destination finale. Qu'est-ce qui arrive aussi avec le navire qui est là actuellement, qui, lui, peut contenir jusqu'à 9 900 conteneurs environ?
Oui, ça, j'aimerais ça qu'on en parle dans quelques minutes, juste avant, là, pour l'impact, parce que c'est intéressant là, ce que vous dites, puis je ne veux pas passer trop vite là-dessus, mais l'impact sur cette chaîne d'approvisionnement sur le nord-est des États-Unis aussi, ça nous impacte, nous, au Canada, assurément, là.
Oui, quoique ce qui se dirigeait vers Baltimore n'est pas nécessairement, c'est pas un port naturel là, de contact avec le Canada.
Okay.
Ce que nous, on reçoit au Canada, qui vient principalement de Baltimore, c'est du cargo vrac, du bulk, de l'acier ou des choses comme ça, et également de la machinerie, parce que Baltimore est un gros port qui accepte les navires qu'on appelle RORO, Roll On and Roll Off. C'est comme des gros traversiers qui arrivent d'outre-mer et qui vont à Baltimore se décharger. C'est pas tous les ports qui acceptent ce type de navire-là. Ici au Canada, on a Halifax qui accepte ce type de navire-là. Et donc, tous les navires de ce type-là qui devaient se décharger à Baltimore vont devoir être redirigés vers un autre port qui peut les accepter, qui a les facilités pour accepter une rampe de chargement et de déchargement de ce type de navire-là.
Est-ce qu'on pourrait nous demander, justement, du côté d'Halifax, de donner un coup de main, de mettre la main à la pâte, ou ça ne ferait pas de sens?
Ça serait possible, mais je suis certaine que, compte tenu de l'environnement douanier, ils vont vraiment chercher des solutions intra-US pour essayer de contrôler cet impact-là. Parce qu'une fois qu'on arrive dans un autre pays puis qu'on doit refaire tout le contrôle douanier et toute la documentation, là, ça devient d'une complexité extraordinaire. Là.
C'est ardu, d'accord.
C'est difficile à gérer. Là, je voyais ce matin qu'au port de Baltimore, tous les camionneurs qui arrivent avec des conteneurs qui doivent partir à l'exportation, ces camionneurs-là sont quand même déchargés. Donc, on accepte les conteneurs parce qu'il faut bien que ces camionneurs-là puissent faire autre chose, libérer leurs équipements pour aller chercher d'autres conteneurs, aller chercher d'autres marchandises à livrer. Donc, ça a un impact vraiment là, très sévère sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. On va le constater dans les prochains jours. Ça me fait penser beaucoup, par exemple, à ce qu'on a vécu quand le port de Montréal était en grève et que les navires ne pouvaient pas monter jusqu'à Montréal et qu'ils ont été déchargés, par exemple, à Halifax ou à Saint-Jean-de-Nouveau-Brunswick. À partir de ce moment-là, les importateurs étaient laissés à eux-mêmes. Les lignes maritimes disent c'est un cas de force majeure, on ne peut pas aller décharger à Montréal, on va décharger ailleurs, mais on arrête là. Vous devez récupérer vos conteneurs à Halifax et à Saint-Jean à vos frais.
OK, pour le commun.
Un autre aspect.
Ah ben oui, assurément. Puis on n'y pense pas en tant que citoyen. Là. J'aime ça m'appeler une kidam, mais même lors de la grève du port à Montréal, j'ai l'impression que les impacts pour ceux qui nous écoutent sont pas clairs dans leur tête. Est-ce que vous vous souvenez comment ça nous a affecté peut-être dans les magasins ou dans l'approvisionnement?
Ah, tout à fait. Ça a été extrêmement long dans toute la chaîne au complet parce que c'est sûr aussi que les navires restaient en attente dans le port d'Halifax et le port de Saint-Jean. Parce que là, à ce moment-là, on redirige tous les porte-conteneurs vers ces deux ports-là, puis qui deviennent à ce moment-là en surcapacité. Là, ils sont pas capables de suffire à la demande. Le chemin de fer n'est pas capable de suffire à la demande. On voit que de Halifax vers Montréal, il y a juste un chemin de fer qui est le CN. À partir du moment où le chemin de fer est plein, on peut pas rajouter trois étages, quatre étages. Là.
Non,
on n'avance pas. Donc, c'était des camionneurs qui étaient dédiés pour aller chercher les conteneurs. Mais il y a aussi un aspect que, au fur et à mesure que les navires arrivent, on empile les conteneurs. Donc, les premiers arrivés ont été les derniers livrés. Donc, tout le monde qui attendait des conteneurs de céramique ou de vêtements ou de ce qui arrive de l'Asie du Sud-Est principalement ou ce qui arrivait de l'Europe, Tout ça, ça a été décalé. On a eu des conséquences et en termes de temps de délai de livraison et en termes de coûts qui ont été extraordinaires.
Ah, c'est fascinant. On n'est tellement pas au courant de ce genre de choses-là. Puis l'autre aspect que vous disiez, le navire qui était un porte-conteneur, donc avec plein de conteneurs, il y avait assurément plein de marchandises là-dedans.
Oui.
Est-ce qu'il est assuré? Qu'est-ce qui arrive si ça sombre dans les eaux comme ça? C'est toujours bien pas la faute des commerçants, de ceux qui sont en affaires et qui choisissent d'acheter un conteneur sur un porte-conteneur pour faire livrer leurs marchandises. Comment ça se passe côté assurance?
En fait, l'assurance pour le fret maritime, c'est assez particulier parce que selon une vieille loi maritime, tout le monde qui a un intérêt sur le navire est co-responsable de ce qui se produit. Donc, on appelle ça une avarie commune. Si le propriétaire du navire, ici l'opérant, parce qu'il n'est pas propriétaire, mais c'est un opérant, c'est la compagnie maritime Maersk, qui est la plus grosse au monde, qui opère ce navire-là. Si eux décrètent ce qu'on appelle « general average » ou « avarie commune », ils vont réclamer une partie des frais encourus à chacun des propriétaires de marchandises, chacun des propriétaires de marchandises qui ont du cargo à bord du navire, au prorata de la valeur du cargo qu'ils ont sur le navire.
Ben voyons, c'est complexe, oui, mais, c'est, mais c'est, je trouve que c'est... En fait, c'est peut-être moi, là, mais dans ma tête, c'est une assurance que c'est le porte-conteneur, que c'est l'entreprise du transport qui devrait assurer justement que la marchandise, si elle est perdue, les entreprises soient dédommagées. On dirait que j'ai de la misère à comprendre ça. Le risque est tellement grand. Sinon, en même temps, je veux dire, ça n'arrive pas à chaque jour. Et heureusement, une tragédie comme celle-là du pont de Baltimore qui s'effondre.
C'est un risque partagé, en fait. Puis l'assurance, quand les clients ne contractent pas d'assurance cargo, ce qui va arriver, c'est que si la ligne maritime décide justement de déclarer avarie commune, les conteneurs vont être pas saisis, mais en fait, tant et aussi longtemps que le propriétaire des marchandises n'a pas versé la caution exigée ou que l'assureur de ce propriétaire-là de marchandises n'a pas versé la caution qui est exigée, le conteneur ne pourra pas être libéré. Là, il ne pourra pas être remis à son propriétaire.
Ah, ouais,
c'est vraiment comme ça que ça... C'est une responsabilité conjointe. Ensuite, les assureurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils retournent contre l'assurance du transporteur maritime. Mais dans le concret, ce qui doit se passer, là, c'est vraiment la gestion de l'avarie commune qui est une co-responsabilité de tout le monde qui a des intérêts sur le navire.
On peut-tu aller en cours avec ça parce qu'on veut s'obstiner et essayer de sauver notre argent?
Bonne chance, parce que c'est des lois maritimes internationales, là, donc c'est pas aussi facile que ça.
Peut-être une question stupide. Est-ce que les conteneurs sont assez isolés pour peut-être avoir protégé la marchandise une fois dans l'eau?
Généralement, non, pas du tout. Alors là, à ce moment-là, si la personne, le propriétaire des marchandises a une couverture d'assurance cargo, c'est nécessairement convenu que cette assurance-là va couvrir ce genre de risque-là. Si vous n'avez pas de protection d'assurance cargo, ben à ce moment-là, il va avoir la responsabilité minimale du transporteur maritime qui doit chiffrer aujourd'hui là, peut-être 1000 $ pour un conteneur au complet. Là. C'est pas plus que ça.
Que pour l'assurance, OK, quand même.
Mais que c'est... pour la valeur, la responsabilité du transporteur.
Okay.
C'est pas une assurance,
okay,
mais c'est une responsabilité. Donc, si jamais votre conteneur est tombé en bas du navire qui a été poussé par l'impact, puis que vous n'avez pas d'assurance, vous pouvez toujours réclamer au transporteur maritime, mais sa responsabilité maximale pourrait se retrouver autour de 1 000 $ seulement.
Les gens écrivent en masse à propos du prix de l'essence. Ça peut-tu avoir un impact dans les prochains jours?
Je ne croirais pas, non.
Ça
ne
pourrait pas jouer.
Je ne croirais pas qu'il y aurait un lien avec ça. Je ne pense pas, non.
Vu la congestion.
Par contre, sur tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, puis vous avez des conteneurs à bord de ces navires-là, là, soit qu'on parle de celui qui est là ou soit qu'on parle des navires qui sont déroutés, mais vous avez des conteneurs aussi qui sont des conteneurs réfrigérés qui potentiellement contiennent des marchandises qui devaient être destinées à Baltimore puis qui arrivent de l'Amérique du Sud puis qui contiennent des piments puis d'autres aliments qu'on consomme tous les jours.
Ouais.
Ben là, c'est sûr et certain que s'ils devaient aller à Baltimore se faire décharger puis qu'ils sont obligés d'être routés ailleurs, soit que les cargaisons vont être perdues ou soit que ça va prendre pas mal de temps avant que ça arrive vers la destination.
On va retourner au Cannes du côté de Baltimore pour un bout et dans les environs. En terminant, Mme Blouin, une situation comme celle-ci, c'est sûr que là, on va spéculer. Vous croyez que ce sera réglé du tout au tout en combien de temps?
Très difficile, parce que là, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'enquêtes actuellement. Là. Je ne pourrais pas vous dire, parce que ça dépend des combien d'effectifs ils vont vouloir consacrer là, pour retirer les débris. Qui va passer avant? Là? Est-ce que c'est les FBI qui va d'abord devoir passer? Quelle est la priorité, l'ordre de priorité qui va être attitré pour les événements qui s'en viennent? Mais ça risque d'être quelques semaines.
Un gros merci, Mme Céline Blouin. Vous êtes directrice générale VP logistique et opérations chez Dolbec. C'est un bonheur de vous avoir parlé. Très, très intéressant, cet aspect-là, en fait, de tout ce qui s'est passé du côté de Baltimore, soit qu'un conteneur, là, enfin, un cargo-conteneur a foncé. Un porte-conteneur, oui, merci pour la spécification, sur un des ponts les plus connus de Baltimore et un des plus importants. On se reparle assurément dans une autre... Bien, peut-être pas tragédie, là, j'allais dire une autre situation.
Non.
Espérons moins tragique.
D'accord. Merci beaucoup.
Au revoir, merci. Vous avez beaucoup commenté cette entrevue. C'est un aspect qui va assurément faire la une dans les prochaines heures, les prochains jours. On va être, bien sûr, dans tout ce qui est enquête du FBI. Je vous rappelle que ce qui s'est passé à Baltimore, le FBI, en ce moment, écarte, du moins, ne met pas d'effet lumière sur une possible attaque de terroriste. On parle plutôt d'un propulseur qui aurait peut-être explosé dans le porte-conteneur, qui aurait fait en sorte qu'il aurait dévié et qui aurait frappé le pont de Baltimore, qui s'est complètement effondré comme un château de cartes. Là, c'est pas drôle. Là. Les images sont frappantes, c'est ahurissant. Et comme diraient certains auditeurs, ça vient de nous activer une nouvelle peur. Ça, je suis quand même d'accord. Va falloir se gérer quand on va passer sur nos ponts ici, surtout avec les dernières études. Mais c'est une autre affaire. Et les mauvaises langues diront que ça va retarder un certain trafic illégal. Bon, on peut penser à ça. It's All, c'est une reprise de Fortune Cookie Club. Puis habituellement, moi, je préfère le classique. C'est rare que je préfère une reprise, mais là, je les aime les deux égales. J'adore cette chanson-là et Fortune Cookie Club l'a extrêmement bien repris. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Vous pouvez communiquer avec nous autant sur Twitch que sur le 88-971-1021. Vous êtes dans l'heure CV. Ça tire presque à sa fin. Restez là. CV. C'est sûr qu'on en a fait une émission spéciale là, sur tout ce qui s'est passé à Baltimore. Mais il y a d'autres nouvelles. Entre autres, il y a un prof qui est poursuivi pour 1,8 million de dollars. Pourquoi? Il a vendu des dessins. Mais des dessins de qui? De ses élèves. Il y a un groupe de 10 parents de la région de Montréal qui poursuit un enseignant d'école secondaire et une commission scolaire complète pour des travaux artistiques qui auraient été faits dans une classe, en fait, par les enfants et qui ont été mis en ligne. Le prof en question a créé des tasses, en fait, avec ces images-là qui sont un peu à la... le cri, là, tu sais, la peinture très connue du cri, là. Je trouve que certains des dessins ressemblent à ça. Je ne sais pas si c'était l'inspiration. Mais c'est une affaire qui a été portée devant la Cour supérieure du Québec et les demandeurs réclament 155 000 $ par famille. Voilà pourquoi on est à 1,8 million de $ plus les dommages et intérêts et des excuses rédigées par le professeur d'art de l'école secondaire Westwood. Il s'appelle Mario Perron. Et la commission scolaire aussi doit rédiger des excuses. Donc, on demande, entre autres, au responsable Lester B. Pearson de faire une lettre d'excuse, là, presque à la main, je vous dirais. Mais il y a un dossier quand même enregistré là, qui date du 15 mars qui indique que M. Perron a demandé à ses élèves de l'école Saint-Lazare de réaliser un portrait effrayant. Puis ils le sont, hein. Et de le faire dans le style de l'artiste Jean-Michel Basquiat. Les documents allèguent que les élèves ont découvert seulement en février que l'enseignant vendait les œuvres en ligne sans leur consentement. Et il faisait ça sous forme d'impression, là. Oui, sur des tasses à café, mais aussi sur des T-shirts, des sacs, des décorations. Puis les prix partaient de 9,50 jusqu'à 113 $. Et là, la poursuite accuse l'enseignant d'avoir violé les lois sur le droit d'auteur. Je comprends donc, mais en même temps, mettons-nous tous à l'œuvre d'art, là, on s'entend. Donc, violer les lois sur le droit d'auteur et d'avoir ébranlé la confiance des parents et des élèves. Moi, je sais que j'aurais été fâchée si mon œuvre d'art était vendue par mon prof aussi. Je sais pas pour vous, là, si vous auriez été choyée ou fâchée, mais les demandeurs exigent que les travaux des élèves soient retirés du site de vente immédiatement. La commission scolaire a refusé de commenter la poursuite judiciaire. Normalement, c'est ce qui se passe, là. Mais a déclaré, là, en février, qu'elle allait enquêter sur les allégations et les prenait au sérieux. Avez-vous mis la main sur des tasses, des sacs, des portraits effrayants de cette classe d'élèves-là? On rit, mais c'est pas drôle. C'est juste que la nouvelle est quand même particulière. Surtout que je sais pas si c'est les vrais noms des élèves qui est là, mais il est écrit « Logan's Creepy Portrait Print, 118 $ ». Donc, il y a les noms peut-être des élèves. Il y a Alexandra qui en a fait un, il y a Evans. C'est en plus, c'est les prénoms de ces élèves. Mario Perron, il manquait quelques leçons de droit puis de respect, là. Il y a quelque chose qui s'est perdu, là, si jamais... Ça se passe comme c'est énoncé. Il y a aussi une nouvelle qui fait l'actualité très, très fortement aujourd'hui. C'est un coroner qui recommande de suspendre le permis de conduire de ceux qui ne s'attachent pas. Donc, bon, vous savez, le bilan routier 2023 de la Sûreté du Québec a révélé qu'il y a près de 20% des victimes décédées dans des collisions qui ne portaient pas la ceinture. Ça, moi, je ne vais pas, vous dénoncer, là. Je ne mettrai pas votre numéro de téléphone ou votre nom public, là. Mais hein, je ne suis pas le professeur Mario Perron, là. J'utiliserai pas mon information pour faire de l'argent. Mais dites-moi, est-ce que vous attachez? J'ai l'impression que c'est autre temps, autre mœurs. Que ça, c'est clair dans notre tête qu'on s'attache. Mais peut-être que je suis d'un vape, là. Mais bon, on a pris... On souhaite prendre le taureau par les cornes. Puis un coroner qui recommande de suspendre le permis de conduire des usagers de la route là, qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité, surtout après la mort d'un jeune homme de 25 ans dans un carambolage en Montérégie. Donc, on ne veut pas perdre des vies inutilement. Le port de la ceinture de sécurité, c'est une des bonnes mesures, on dit, de protection. C'est la meilleure, en fait, pour les occupants d'une voiture lors d'un accident de la route. C'est le coroner qui s'est prononcé. Mais voilà, on souhaite peut-être sévir, justement, sur la condition de s'attacher. Geneviève Guilbeault, M. Pierre Fitzgibbon et tous ceux qui ne se sont pas attachés vont devoir revoir leurs habitudes aussi. En même temps, c'est pas eux qui conduisent leur voiture de fonction. On l'a bien vu, ça. Merci beaucoup d'avoir été dans l'heure CV. Toute l'émission sera possiblement en ligne dans quelques minutes sur le site de blvd.fm. Si vous avez manqué ça, ben, c'est une émission dédiée à ce qui s'est passé à Baltimore. On a parlé avec un enseignant à la retraite en physique et vulgarisateur sur pourquoi ça s'est effondré comme un château de cartes. Et la deuxième partie, ça a été avec des gens qui connaissent très, très bien tout ce qui est porte-conteneurs, qui est cargo, les assurances, qu'est-ce qui va arriver, c'est bloqué partout. Est-ce qu'on va avoir une situation de retard dans bien de la marchandise livrée? Ça a été vraiment intéressant de le faire avec vous. Merci pour votre participation. Dans un instant, notre cher Yannick Marceau est de retour. On est bien content de l'avoir. Hier, ben, on a frappé en relève avec Nathan Meilleur. Mais là, c'est ça, Yannick est en forme et il est très content de retrouver son micro. Donc, on s'en va dans Marceau midi dans quelques minutes. Merci à tous.